Vous écoutez France Culture.
Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Les Nouveaux Chemins. On est ensemble jusqu'à 11h. Hey, you know what? Cette émission ne serait pas ce qu'elle est sans Geneviève Méric, Ivy Paolo Antonacci, Marianne Chassor, Tristan Grenassian et Géraldine Mosna-Savoie. Elle est mise en musique cette semaine par Philippe Baudouin à la réalisation, avec aujourd'hui à la prise de son, Sébastien Royer. À 10h50, vous retrouverez comme tous les jours François Nudelmann pour le Journal de la philosophie. François, qui s'entretiendra aujourd'hui avec Françoise L'Héritier à propos de son dernier livre, Le sel de la vie, paru chez Odile Jacob. C'est le dernier temps aujourd'hui de notre semaine consacrée à Ludwig Wittgenstein. Après son parcours intellectuel et biographique lundi, le Tractatus Logico-Philosophicus mardi et les recherches philosophiques hier mercredi, c'est aujourd'hui avec le texte intitulé « De la certitude » que nous allons clore provisoirement cette semaine. Contrairement aux recherches philosophiques qui ont été rédigées sur près de 20 ans, « De la certitude » présente un ensemble de notes écrites par Wittgenstein lors des derniers 18 mois de sa vie, entre 1949 et 1951. Plus que dans tous ses autres écrits, rappelle Danielle Moyal-Charoc, la traductrice du texte en français, nous voyons ici Wittgenstein à l'œuvre. Ouvrir de la certitude, c'est se trouver abruptement tiré dans les coulisses de la pensée d'un philosophe qui se débat seul, intensément, avec son sujet. Nous sommes en plein questionnement philosophique et tout est exprimé. La perplexité, la frustration, la remise en question et la presque résignation, mais aussi la remontée, les rebondissements, les délibérations et les affirmations. Que pouvons-nous savoir et de quoi sommes-nous réellement certains? Et enfin, corollaire de ces questions, peut-on douter de tout? C'est en affirmant que le doute présuppose une certitude et un ensemble de connaissances dans lequel il prend sens que Wittgenstein nous donne les plus belles armes contre le scepticisme, celles non pas de la réfutation, mais du constat de son absurdité.
Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière.
Souvenez-vous.
Qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Qu'il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même. Qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas.
Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Frederiksberg.
Il insiste, elle s'insurge.
Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez, je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
Je ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie?
La jeune femme cède du terrain, grave. Sûr de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison? Qui ment? L'homme est-il un banal séducteur, un fou? Ou bien confond-il deux visages? Que s'est-il vraiment passé l'année dernière? Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs. Un objet. Un geste. Un décor.
Non!
Une attitude, le moindre détail a son importance. Pour la première fois au cinéma, vous serez le co-auteur d'un film. À partir des images que vous verrez, vous créerez vous-même l'histoire d'après votre sensibilité, votre caractère, votre humeur, votre vie passée. C'est à vous qu'il appartiendra de décider si cette image ou celle-là représente la vérité ou le mensonge, si cette image est réelle ou imaginaire, si cette image figure le présent ou le passé. Tous les éléments vous seront donnés, à vous de conclure.
Bonjour Jocelyn Benoît.
Bonjour Adèle.
C'est donc avec vous que nous allons terminer cette semaine sur Wittgenstein en parlant de la certitude. Alors, L'émission a commencé avec un extrait de l'année dernière à Marion Bad, hein, le film d'Alain René qui date de 61, avec Delphine Seyrig et Giorgio Albertazzi. Et on a entendu, alors là c'était la bande-annonce, qui fait d'ailleurs un excellent effet d'annonce pour cette émission, puisque les thèmes qui y sont abordés sont ceux précisément qui vont être repris, sans qu'il le sache évidemment, par Wittgenstein, puisqu'il est question d'un homme qui est persuadé d'avoir rencontré une femme il y a quelques années, celle-ci ne s'en souvient pas. La question de savoir qui a raison, le spectateur ne le sait pas au moment où il regarde de la bande-annonce, c'est à lui de restituer la vérité à partir d'indices et de déceler la nature de la réalité, de distinguer la vérité de la fausseté et de savoir si l'homme est un séducteur, dit-il, ou juste un fou. Tous ces thèmes-là, la réalité, la nature de la réalité, la distinction entre vérité et fausseté, entre la démence mentale et au contraire la santé mentale qui est un indice qui nous permet d'accéder à la vérité, sont tous en œuvre dans l'œuvre de Wittgenstein et précisément dans ce traité de la certitude, Jocelyn Benoît.
Oui, tout à fait. C'est vrai que l'exemple est particulièrement frappant puisque un des thèmes de la certitude, bon, qui est un thème ancien dans l'œuvre de Wittgenstein, mais dans de la certitude, il acquiert une importance tout à fait centrale, c'est effectivement la mémoire et le type de scepticisme qu'on peut avoir par rapport à la mémoire. Il est bien évident que parfois nous pouvons nous tromper dans nos souvenirs, mais qu'est-ce que ça serait un doute radical, un doute généralisé sur la mémoire? Est-ce qu'on peut en tirer une sorte d'inquiétude générale sur la réalité dans ce dont nous croyons nous souvenir? Et au fond, une des idées de Wittgenstein, c'est que, en un certain sens, pour que ça ait un sens de se tromper dans ses souvenirs, bah, il faut bien qu'à un certain niveau, il y ait quelque chose qui soit hors doute, il y ait une sorte de confiance fondamentale dans le fait que nous nous souvenons de certaines choses. Et c'est pour un être qui se souvient de certaines choses que ça peut avoir un sens parfois de se tromper sur ce dont il se souvient. L'autre aspect intéressant, c'est évidemment l'invocation tout de suite de la folie. Au sens où, si on tombe sur quelqu'un qui va prétendre avec insistance, effectivement, se souvenir d'une certaine chose dont nous savons bien qu'elle n'a pas eu lieu, ce qui est intéressant, c'est que dans certains cas, nous dirons « mais tu te trompes », dans d'autres cas, on ne dira pas ça. Au bout d'un certain moment, on n'osera peut-être pas lui dire, mais on se dira « il est fou ». Alors, pourquoi ce passage de limite? Puisque, d'une certaine façon, on pourrait avoir l'impression que formellement, c'est la même situation, mais pas du tout. On ne raisonne pas dans les mêmes termes. Suivant que ça touche quelque chose qui finalement est suffisamment localisé dans notre système de croyances, dans le type d'interaction que nous avons avec le monde, pour que le fait que ça soit faux ne remette pas en question ce système, ou bien s'il s'agit de quelque chose qui peut être éventuellement très concret, très empirique, très particulier, sur lequel nous nous reposons à un tel point, qui joue un rôle tellement central dans le type de confiance générale que nous avons par rapport aux choses, que si ça s'est remis en question, là on a envie tout de suite de crier à la folie.
Si un beau jour mon ami s'imaginait à tort avoir vécu longtemps à tel ou tel endroit, je n'appellerais pas cela une erreur, mais plutôt un dérangement mental, peut-être passager. Toute croyance fausse de ce genre n'est pas nécessairement une erreur. Mais où est la différence entre erreur et dérangement mental? Ou encore, d'où voit-on si je traite quelque chose comme une erreur ou comme un dérangement mental? Ce sont les propositions 71, 72 et 73 donc du traité de la certitude, où Wittgenstein justement s'interroge sur sa distinction entre erreur et dérangement mental. Mais dans le cas d'un souvenir, la question se pose avec d'autant plus d'acuité, puisque vous parliez de ces propositions qu'on peut nommer les propositions pivots, c'est-à-dire des choses auxquelles on a besoin de croire pour pouvoir avancer dans la connaissance et dans la certitude, même si on va distinguer dans un instant certitude de connaissance. Il y a des choses que l'on doit tenir pour acquis, sinon on ne peut rien savoir, on ne peut rien dire. Or, dans le cas d'un souvenir, quelqu'un qui s'imaginerait avoir vécu longtemps à un endroit et pas dans un autre, quelle est cette proposition pivot? Quel est ce critère solide sur lequel je puisse me baser afin de déterminer la vérité ou la fausseté de cette affirmation?
Alors, je crois qu'il y a deux questions au fond. Il y a la question des critères, et les critères, en un certain sens, ils sont toujours externes, ou en tout cas partiellement externes, au sens où ils renvoient forcément à toute une série de comportements. C'est dans ce que font les gens qu'on peut finalement constater ce qui est solide ou pas, ce à quoi ils croient vraiment ou non. Et c'est à ce niveau que quelque chose comme un format d'objectivité devient possible. Après, il y a cette notion de proposition pivot. Alors la proposition pivot, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément une proposition super abstraite. Il y a une certaine rhétorique philosophique traditionnelle qui est celle de la recherche du fondement. On va chercher ce qui est tellement essentiel que ça ne peut pas être faux. Et on peut se reposer là-dessus. Ce sur quoi Wittgenstein attire notre attention, c'est sur le fait qu'il y a certaines propositions qui, d'une certaine façon, sont mises hors jeu de la discussion par nous, qu'on a neutralisées, qu'on a mises de côté d'une telle façon qu'elles sont soustraites à la remise en question possible. Or, pourtant, elles sont extrêmement concrètes et, en un certain sens, tout à fait empiriques, au sens que ce mot peut avoir traditionnellement philosophie, au sens où, après tout, si on les regarde froidement, en les décontextualisant, en les arrachant au contexte de croyance qui est le nôtre, elles peuvent tout à fait faire l'objet d'une vérification.
Par exemple, j'ai deux mains, ou tous les hommes ont un cerveau,
ou
la Terre existe depuis très longtemps.
Tout à fait, on peut très bien imaginer que nous tombions sur des créatures extraterrestres qui auraient une conformation tout à fait analogue à la nôtre, et puis voilà que lorsqu'on ouvre le crâne, ben, il n'y a pas le cerveau qu'on aurait pu y attendre. Donc ça pourrait très bien être le cas, qu'il y ait des situations où ça a un sens de rechercher empiriquement s'il est bien vrai ou non qu'il y a un cerveau dans ce crâne. Or, dans la vie familière, dans notre interaction d'être humain, c'est le genre de question que nous ne nous posons pas, au sens où il serait perçu immédiatement comme anormal de les poser. On aurait le sentiment qu'il y a là quelque chose qui, plus que de l'ordre de la perplexité légitime, est de l'ordre de la folie ou du dérangement, hein, suivant l'expression employée. Les propositions pivot, ça peut être des propositions qui pourraient très bien, dans certaines situations, ouvrir tout à fait à des procédures de vérification. Mais en quoi elles sont pivot ? Elles sont pivot en ce que nous les avons soustraites à ce genre-là d'enquête. Nous les avons mises de côté. Nous avons besoin, comme vous l'avez dit, c'est, je crois, une formule importante, de nous appuyer dessus pour nous orienter dans le monde. Et nous orienter dans le monde, je crois que c'est important, ensemble, au sens où c'est aussi toujours quelque chose de partagé.
Dans la mesure où, la façon que nous avons de nommer ces choses-là est d'utiliser le langage. Et c'est en cela que, de toute façon, c'est d'emblée, ça s'inscrit d'emblée dans une communauté, dans un ensemble, puisque le langage ne m'est pas propre. Le langage est ce que je partage avec d'autres individus et qui, d'ailleurs, me précède, ce qui pose toute la question de l'appropriation de ce langage par soi, ce dont on a parlé hier avec Vincent Descombes en évoquant les recherches philosophiques. Mais alors, sur ce que vous dites des propositions pivots et de ces, en fait, de ces instances qu'on se doit de ne pas remettre en question pour pouvoir avancer dans la connaissance, comment, si elles ne, vous avez dit, elles ont l'air d'être empiriques, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce sont des propositions que l'on déduit d'une observation de l'expérience. J'ai deux mains, il suffit de regarder la main droite et la main gauche pour savoir que j'ai deux mains. Or, ce ne sont pas à proprement parler des propositions empiriques. Elles ont l'air d'être des propositions empiriques, mais en réalité, ce sont des propositions d'ordre logique qui nous permettent d'avancer dans la pensée. Et ce point-là est très important, ce sont des propositions logiques qui avancent masquées en réalité, qui se font passer pour des propositions empiriques.
Alors, je pense qu'une des idées fondamentales de Wittgenstein, c'est que il n'y a pas une proposition qui serait en elle-même, par exemple, empirique ou logique. Une proposition, c'est toujours une façon de l'utiliser. C'est en cela qu'il dérange un certain type de partage que la philosophie, traditionnellement, pouvait croire rigide, tout à fait stable, avec l'idée que d'un côté, il y aurait des propositions qui relèveraient de la logique, de l'autre côté, il y aurait des propositions empiriques, donc qui seraient potentiellement vérifiables par l'expérience, par l'observation. Wittgenstein va nous dire, il y a certaines propositions qui ont un air tout à fait empirique au sens où elles s'inscrivent bien dans un certain type de rapport avec le monde, où on pourrait imaginer des circonstances, des contextes où elles donneraient lieu à vérification, ça serait tout à fait possible. Et puis, on se rend compte, quand on analyse nos discours, quand on analyse notre façon de nous orienter à travers les choses, avec notre langage, qu'en réalité, elles ne sont pas du tout utilisées comme ça, qu'elles sont utilisées comme quelque chose d'extrêmement stable. Et effectivement, elles acquièrent un statut logique, ou comme il le dit parfois, grammatical, au sens où, au fond, elles deviennent des principes d'organisation de notre discours. Elles ne sont plus de véritables constats de fait. Elles renvoient plutôt à des choses sur lesquelles nous comptons bien et dont il est essentiel, dans notre façon de nous orienter dans le monde, ce qu'il appelle parfois notre forme de vie, que nous comptions bien dessus. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on voit là, c'est une évolution du concept de logique. Le concept de logique est, en un sens, reporté sur le type même de lien, de nouage que nous pouvons instaurer avec les choses par notre langage même. Ce qui veut dire aussi qu'il faut renoncer à une certaine conception idéalisante de la pureté de la logique comme quelque chose qui serait, en un certain sens, complètement immune au monde, qui serait complètement indépendant du type de lien que nous avons avec le monde. Non, la logique, c'est plutôt la façon dont nous nous ménageons un certain type de prise sur les choses et une certaine façon de nous orienter à travers les choses au moyen du langage.
Alors pour comprendre cette conception particulière de la logique qu'a Wittgenstein et celle qu'il expose dans De la certitude, parce qu'on a parlé du Tractatus ce mardi dernier, là, il y a, il me semble, une dimension qui vient en plus, qui est celle du scepticisme. Pourquoi est-ce important d'avoir des propositions que nous ne pouvons pas remettre en question, que nous n'avons pas le droit de manière épistémologique de remettre en question? Eh bien parce que cela nous permet de faire du scepticisme, c'est-à-dire cette mise en doute radicale du monde et d'autrui, de tout ce qui nous entoure, de l'existence en tant que telle, ça permet de diminuer la portée du scepticisme, puisque du coup, si certaines propositions ne peuvent pas être remises en question, on doit accepter de fait certaines vérités qui viennent faire écran face à un scepticisme qui serait radical et totalisant, ce qui montre bien que il y a ce souci de démontrer l'absurdité même d'un scepticisme radical. Et c'est exactement l'idée qu'expose, non pas Wittgenstein, mais un philosophe qui vient bien avant lui, et que Wittgenstein a lu évidemment, qui s'appelle David Hume. Je propose de l'écouter tout de suite.
C'est ici l'objection capitale et la plus embarrassante au scepticisme excessif, que nul bien durable n'en saurait jamais résulter tant qu'il demeure dans toute sa force et toute sa vigueur. Nous n'avons qu'à demander à un pareil sceptique quel est son dessein et ce qu'il se propose par toutes ses curieuses recherches. Il est aussitôt en peine et ne sait que répondre. Un copernicien ou un ptoléméen, qui soutiennent chacun leurs différents systèmes d'astronomie, peuvent espérer produire dans leur auditoire une conviction qui restera constante et durable. Un stoïcien ou un épicurien développent des principes qui peuvent n'être pas durables, mais qui ont un effet sur la conduite et la manière d'agir. Mais un pyrrhonien ne peut compter que sa philosophie ait aucune influence constante sur l'esprit, ni que, si elle en avait, cette influence dût être bienfaisante pour la société. Au contraire, il est obligé de reconnaître, si tant est qu'il reconnaisse quelque chose, que toute vie humaine périrait forcément si ses principes devaient universellement et fermement prévaloir. Tout raisonnement, toute action cesserait aussitôt. Et les hommes resteraient dans une totale léthargie, jusqu'à ce que, les nécessités de la nature n'étant pas satisfaites, missent fin à leur misérable existence.
C'est dans l'enquête sur l'entendement humain que David Hume écrit ce texte, Jocelyn Benoît, et il montre bien que ce qu'il nomme un pyrrhonien, donc quelqu'un qui ferait preuve d'un scepticisme radical et absolu d'ailleurs, un pyrrhonien ne peut compter que sa philosophie ait aucune influence constante sur l'esprit, ni que si elle en avait, cette influence dût être bienfaisante pour la société. Le scepticisme radical est non seulement inutile théoriquement, théoriquement parlant, mais inefficace dans la dimension pratique. Donc il n'est pas recevable ni d'un point de vue ni de l'autre. Jocelyn Benoît.
Alors oui, Wittgenstein, évidemment, dans la certitude, s'insère dans une tradition philosophique qui est celle de la discussion du scepticisme. Bon, il y a des médiations à cela. L'interlocuteur immédiat, c'est Moore. On reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Mais à la source de cette tradition moderne de réélaboration des questions sceptiques, il y a évidemment David Hume. Et par bien des côtés, la position développée par Wittgenstein dans de la certitude peut avoir une affinité avec celle de Hume. Évidemment, au premier abord, ça paraît très opposé, puisque classiquement, on range Hume plutôt dans le camp des sceptiques dits modérés. Dans le texte qu'on vient d'entendre, Hume récuse un certain type de scepticisme, le scepticisme dit extrême, pour en réalité être l'avocat d'un autre type de scepticisme, un scepticisme modéré. Wittgenstein, dans De la certitude, ne présente quant à lui certainement pas une position sceptique. Néanmoins, d'un côté, son rapport au scepticisme n'est probablement pas un rapport de réfutation, contrairement à ce qui peut être le cas d'un certain nombre d'autres philosophes de son temps, ceux avec lesquels il discute immédiatement, à commencer par Moore, en réaction au texte duquel De la certitude est écrit. Et d'autre part, le scepticisme de Hume présente quelque chose, je pense, de très intéressant pour Wittgenstein, à savoir l'idée que le scepticisme en tant que position théorique ne remet pas en question ce qui est le fondement de notre rapport pratique aux choses, ne remet pas en question quelque chose de tout à fait fondamental, à savoir l'habitude. L'habitude n'étant pas un principe théorique, mais étant un principe de vie. Et cet ancrage dans la vie même, ce qui est un aspect du discours de Hume, c'est évidemment quelque chose que nous retrouvons de façon tout à fait centrale dans ce que dit Wittgenstein dans De la certitude. D'une certaine façon, je pense qu'on gagne à distinguer, dans l'histoire de la philosophie moderne, Hume lui-même et, de l'autre côté, les positions épistémologiques, donc de théorie de la connaissance, qui se réclament de Hume, notamment dans la philosophie anglo-saxonne moderne, celle du XXe siècle. Puisque, en un certain sens, chez Hume, la question est fondamentalement une question de prise en compte de la dimension habituelle, pratique, voire instinctuelle de notre rapport aux choses. Or ça, c'est des thèmes qu'on retrouve chez Wittgenstein. Il ne s'agit pas du tout, pour Hume, d'introduire une sorte de principe critique universel qui induirait une position sceptique purement théorique, comme par exemple un principe d'induction dont il serait montré que nous n'avons pas moyen de le fonder. Donc, puisque nous n'avons pas moyen de le fonder, ben, nous sommes réduits à quelque chose qui serait purement une croyance. Et donc, on ne pourrait plus avoir du tout de fondement de notre rapport aux choses. Il s'agit plutôt de transporter cette question du contexte d'une discussion épistémologique, d'une discussion théorique, à un contexte pratique, comme on l'a vu dans le texte qu'on vient d'entendre, et mettre en avant un principe qui est le principe d'habitude, qui n'est pas du tout un principe théorique comme serait le principe d'induction, mais qui est un principe, au fond, d'existence. Ben, en un certain sens, c'est aussi ce que nous dit Wittgenstein. Ce qui est frappant dans De la certitude, notamment, c'est tout le grand scepticisme de Wittgenstein quant à toute invocation de l'induction comme une espèce de rustine théorique qu'on viendrait ajouter pour colmater le doute né de la difficulté que nous avons à trouver un fondement à la répétition. Les choses se répètent, mais qu'est-ce qui se passerait si elles ne se répétaient pas de façon aussi régulière ? Ben, d'une certaine façon, pour Wittgenstein, c'est une fausse question. C'est une fausse question parce qu'en réalité, celui qui pose cette question est toujours déjà installé dans un dispositif dans lequel il fait fond sur le fait que certaines des choses en question se répètent. Et ça, c'est, si on peut dire, une vérité pratique. C'est une vérité qui a trait à sa façon d'exister, qui a trait aux routines dans lesquelles il est installé, qui a trait à tout le contexte pratique qui est celui de la possibilité même pour lui de poser certaines questions. Les questions ne viennent pas de nulle part. Les questions s'inscrivent dans des formes de vie, s'inscrivent dans des façons de faire, et ces façons de faire ont leur propre stabilité. Mais cette stabilité n'est pas une stabilité qui pourrait s'exprimer en thèse.
Certes, mais quelle force a l'habitude face à deux choses d'ailleurs. Quelle force a l'habitude, puisque vous dites l'habitude est ce qui nous permet, ce qui met en œuvre certains réflexes de pensée et de vie qui font qu'il y a des choses que nous ne questionnons pas. Est-ce que l'habitude est suffisamment forte pour parer ou pour dissiper des questions d'ordre théorique, puisque je peux aussi décider de poser des questions, de mettre en question ce qui ne m'interpelle pas au quotidien. Mais deuxièmement, et là, il me semble que les deux points sont vraiment importants, deuxièmement, c'est l'inverse. Que faire face à ce doute qui peut m'assaillir ? Je ne choisis pas forcément de douter. Wittgenstein dit, il n'y a aucun sens de mettre en doute l'existence, le fait de savoir que j'ai demain, le fait que la Terre existe depuis longtemps. Certes, il n'y a aucun sens, mais je peux me poser la question, même malgré moi, on ne choisit pas forcément de douter des choses. C'est aussi un sentiment et pas uniquement un choix. Donc comment faire dans les deux côtés, finalement ? Dans le cas de celui qui doute volontairement, quelle force lui oppose l'habitude ? L'habitude ne vérifie pas, ne dément pas le doute délibéré. Et inversement, le doute que je ne choisis pas de formuler, mais qui s'impose à moi, comment faire pour le dépasser ?
Oui, je crois qu'on ne choisit pas du tout de douter, effectivement. Mais précisément, ça serait en un sens le reproche que Wittgenstein ferait à une certaine philosophie, ou peut-être à la philosophie tout court d'ailleurs, c'est que justement, elle passe son temps à se mettre en position de choisir ou à faire comme si elle pouvait se mettre en position de choisir. Donc, elle formule des doutes que, généralement, nous ne nourrissons pas. Il y a une distinction très forte entre les doutes philosophiques, en tant que doutes construits de toutes pièces, et la grammaire naturelle du doute. Il y a toutes sortes de situations dans la vie où, effectivement, nous sommes confrontés à des doutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces doutes ne viennent jamais de nulle part. Ces doutes s'inscrivent toujours, précisément, dans une situation déterminée, situation dans laquelle, par définition, nous tenons toutes sortes de choses pour acquises. Et ces choses que nous tenons pour acquises sont des éléments de configuration et de détermination du doute même dans lequel nous sommes. Ce sont elles qui donnent sens à ce doute et qui définissent finalement la teneur exacte de ce doute. Alors, de ce point de vue-là, il y a vraiment une différence entre les doutes, si on peut dire, philosophiques et les doutes communs.
Je sais que je suis un être humain. Pour voir comme est peu clair le sens de cette proposition, considère sa négation. Au mieux, on pourrait la comprendre ainsi. Je sais que j'ai les organes d'un être humain, par exemple un cerveau, que néanmoins personne n'a jamais vu. Mais qu'en est-il d'une proposition telle que « je sais que j'ai un cerveau » Puis-je la mettre en doute ? Pour douter, ce qui me manque, ce sont les raisons. Tout parle en sa faveur, rien contre. On peut cependant concevoir que lors d'une opération, mon crâne se révèle être vide. Qu'une proposition puisse se révéler fausse après coup, cela dépend de ce que j'accepte comme pouvant déterminer le sens de cette proposition.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance où nous avons parlé de Wittgenstein toute cette semaine, de Ludwig Wittgenstein. Et aujourd'hui, dernière émission consacrée au grand philosophe à partir du texte intitulé « De la certitude ». Et nous en parlons avec le philosophe Jocelyn Benoît, auteur notamment d'éléments de philosophie réaliste paru aux éditions Vrin.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans
orgueil. Jocelyn Benoît, la question de l'origine du doute est fondamentale pour comprendre la position de Wittgenstein par rapport vis-à-vis du scepticisme. J'ai lu un extrait juste avant de la proposition 4. Il y a une autre proposition qui nous donne un élément de plus pour comprendre le sens de cette question et la façon dont on peut y répondre. C'est la proposition 283. Comment un enfant peut-il immédiatement douter de ce qu'on lui enseigne ? Cela pourrait seulement signifier qu'il y a certains jeux de langage qu'il est incapable d'apprendre. La notion de jeu de langage nous permet d'ouvrir une dimension de la pensée de Wittgenstein qui va nous donner les réponses aux questions que nous nous posons.
Oui, ce qui est fondamental pour Wittgenstein, c'est qu'à travers les mots, un certain contrat a toujours été déjà passé avec les choses. Et nous avons été enfants avant que d'être hommes, comme disait Descartes. Ce qui veut dire que nous avons été, d'entrée de jeu, exposés à un langage. Et nous l'avons appris. Et la façon dont il décrit cet apprentissage, c'est particulièrement net dans De la certitude. Ça a quelque chose, finalement, d'un dressage, hein, suivant un terme qu'il lui arrive d'employer, au sens où, au moment où l'enfant s'arrêterait et dirait au maître « Mais enfin, pourquoi telle chose, ça s'appelle comme ça ?» D'une certaine façon, il n'y a pas de réponse à cette question-là. La seule réponse qui est, c'est à continuer à pratiquer l'exercice, continuer, par exemple, à appliquer les termes de couleur tels qu'on lui a donnés à des échantillons qu'on lui soumettrait. Et puis, progressivement, ça va rentrer, ça va fonctionner. Et en un certain sens, si ça ne marche pas, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que ça veut juste dire, non pas qu'il y a quelque chose qu'il ne reconnaîtrait pas, mais ça veut dire qu'il n'entre pas dans le jeu qui est le jeu commun, le jeu de langage, qui au fond est tout ce que nous avons à lui offrir. Il y aurait une erreur philosophique à interpréter cette situation précisément comme une erreur, comme si l'enfant se trompait. Non, c'est en amont. C'est ce qui va ouvrir l'espace dans lequel quelque chose comme une erreur est possible et dans lequel ça a un sens de distinguer l'erreur de la vérité, dans lequel ça a un sens de dire, dans ce cas-là, oui, il a bien appliqué le concept en question, il a bien déterminé la chose, ou dans ce cas-là, non, c'est incorrect, son identification est incorrecte. Il y a quelque chose qui permet l'identification et donc également l'erreur d'identification, c'est le fait d'être entré effectivement dans la pratique d'un langage. Et ça, c'est quelque chose qui s'adresse en nous très paradoxalement, y compris à la composante la plus animale. Il emploie ce terme dans De la certitude. Il y a un passage où il dit qu'en un certain sens, apprendre un langage, c'est comme le dressage d'un animal. Il y a quelque chose d'animal là-dedans. Alors c'est paradoxal parce que souvent dans les discussions philosophiques aujourd'hui, y compris certaines qui se réclament de Wittgenstein, on a tendance à insister sur la différence anthropologique, établir une fracture au fond entre le règne animal et puis le règne humain. Et ce qui est intéressant, c'est que De la certitude, dans l'économie de la pensée de Wittgenstein, ça touche cette zone où il est clair que ce dont il s'agit, c'est de la culture, c'est de l'humanité, c'est un texte profondément anthropologique. Mais ce qu'il a à nous dire là-dessus, c'est qu'il y a une dimension instinctuelle de l'humanité même. Ce qui est en question, c'est la dimension de nature de cet être de culture. Et de ce point de vue-là, il ne s'agit pas tant de nous identifier à des animaux, ce n'est pas du tout ça l'enjeu pour lui. Il s'agit plutôt de montrer qu'il y a quelque chose comme une animalité dans l'homme lui-même, de l'homme lui-même, et qui lui est indispensable pour pouvoir agir en tant qu'être humain. Puisque comment ça se passe, entrer dans le langage, ben, ça se passe notamment, au fond, ben, en acceptant, il y a quelque chose de pascalien là-dedans. Faites les gestes. Et c'est quelque chose qui appelle en nous, fait appel en nous à quelque chose comme une nature, comme une dimension
de nature. Est-ce qu'il y a une façon aussi pour Wittgenstein de montrer que le rapport premier de l'homme au monde n'est pas celui de l'intelligence ou celui de la rationalité ? La comparaison avec l'animal montre bien qu'il y a une partie de notre nature qui est instinctive et que c'est sur cette partie instinctive de notre propre être que nous devons construire le langage et nos manières d'être. Ce qui montre bien, là encore, une des formes de limite du raisonnement et de toute réflexion sur le langage qui ne peut pas ne pas prendre en compte ces habitudes dont vous parlez, toute cette dimension de notre vie qui n'est pas réductible à l'analyse rationnelle.
Tout à fait, il emploie le mot instinct à ce propos, c'est tout à fait explicite.
Il écrit ceci, hein, « Je veux considérer l'homme ici comme animal, comme un être primitif à qui l'on accorde l'instinct, mais non le raisonnement, comme un être dans un état primitif, car nous n'avons pas à avoir honte d'une logique qui suffit à un moyen de communication primitif. Le langage n'émerge pas du raisonnement. » Alors là, quand même, la question qui se pose à partir du moment où le langage n'émerge pas du raisonnement, c'est à nouveau celle du scepticisme, puisque si le langage n'est pas le produit d'un raisonnement, d'un choix délibéré, de décision qui pourrait être théoriquement justifiée, mais qu'il émane de manière peut-être plus naturelle. Alors, je ne sais pas s'il a une conception vraiment naturaliste du langage, mais en tout cas, elle n'est pas proprement rationaliste. Alors, le scepticisme n'est pas seulement, j'en reviens à la question sur l'origine du doute, hein, le scepticisme n'est pas seulement une posture théorique, mais il est véritablement vécu. Et le doute vient nous assaillir, ce n'est pas un choix, là, encore une fois, Jocelyn Benoît.
Non, le doute ne peut être effectivement qu'une forme d'expérience et une difficulté que nous rencontrons dans notre forme de vie même, effectivement. Au fond, ce qu'il essaie de dissoudre, c'est le fantasme, pourrait-on dire, d'un doute transcendantal, c'est-à-dire d'un doute qui serait à penser dans une sorte de prise de distance, dont on ne sait pas trop où elle nous installerait, d'un point de vue de nulle part, qui serait comme une façon de nous arracher radicalement à nos pratiques et à nos pratiques dans leur dimension de pensée, à nos pratiques en tant que ces pratiques sont des pratiques de pensée même. Et inversement, ce qu'il essaie de récuser, c'est une posture théorique qui prétendrait réfuter ce genre de doute-là en nous disant, en réalité, vous avez telle et telle connaissance, vous avez toutes sortes de connaissances, ne vous inquiétez pas. Ça serait au fond la philosophie du sens commun, ce qui est son véritable interlocuteur hein, dans ce texte de la certitude. Alors, sa position, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. D'abord, c'est pas une théorie, il ne développe pas une troisième théorie, hein, c'est pas ça son problème. Il essaie plutôt d'analyser la signification exacte de la notion de doute. Et il essaie de nous montrer quand la notion de doute est toujours quelque chose qui surgit dans un contexte normatif. La notion de doute, elle communique avec la notion d'erreur. Il y a de doute que si je colorise de me tromper, et si je suis dans un rapport avec cette idée d'un risque de me tromper. Mais il n'y a pas de risque de se tromper si on n'est pas dans un contexte où, au fond, on a tacitement déjà accepté toutes sortes de choses. Et ces choses, on les a acceptées, mais ne serait-ce que parce qu'au fond, un doute, ça s'exprime. Et si ça s'exprime, c'est dans une forme de langage. Et une forme de langage, c'est déjà une forme d'adhésion à toutes sortes de choses dans le monde. Il y a une très belle image dans le Tractatus qui est l'image des antennes de la proposition qui vont toucher les choses. En réalité, ça, c'est vrai du langage dans son ensemble. Le langage, il touche le monde en toutes sortes de points. Et faire un mouvement au sein de cet espace du langage, ça suppose qu'en réalité, au même moment, ça frotte de tous les côtés. Ce qui s'évanouit progressivement dans le travail de ce texte, les dernières pages au fond de Wittgenstein, c'est les figures symétriques du doute absolu et de la certitude absolue.
Et ce qui montre bien que ce qu'il y a en jeu ici, c'est le rapport entre, alors je ne sais pas trop comment le nommer en termes wittgensteiniens, mais entre quelque chose qui serait d'ordre privé, quelque chose qui serait d'ordre public. Le doute est précisément à la frontière entre ce que je peux ressentir comme étant tel, mais ce que le langage va démentir ou au contraire confirmer. Et toute l'ambivalence et la subtilité, peut-être la richesse de la pensée de Wittgenstein est de prendre cela en compte, cette différence d'échelle entre une certitude qui peut être subjective et une autre qui est absolue, et les deux ne coïncident pas forcément.
Alors, il fait des remarques très intéressantes de ce point de vue-là sur la grammaire hein, de ce qu'il appelle certitude. Il y a deux concepts qu'il emploie. Il y a d'un côté la notion de certitude, de côté la notion de ce qu'on pourrait appeler sûreté. Hein. Il y a Gewissheit et Sicherheit. Gewissheit, c'est la certitude. Dans le mot Gewissheit, vous avez le mot savoir, vous avez le radical qui veut dire savoir. Et puis Sicherheit, c'est plus subjectif, c'est le fait d'être sûr ou pas. Avec y compris la dimension d'inquiétude qu'il peut y avoir là-dedans potentiellement. Et alors Wittgenstein insiste beaucoup sur le fait que la notion de certitude n'est pas un double de celle de savoir, mais en même temps, il insiste sur le fait que dans certains usages effectifs que nous avons du verbe « je sais », si on gratte, on se rend compte qu'en réalité, ça renvoie à ce qu'il appelle certitude. C'est-à-dire, ça renvoie à quelque chose pourquoi nous n'avons pas de raison, mais et pour cause, c'est que c'est l'arrière-plan nécessaire à ce qu'il soit possible, à ce qu'il y ait un sens pour nous à avoir des raisons pour tel ou tel genre de choses. Il y a toujours un endroit où on touche quelque chose qui, au fond, a été tacitement admis, a été soustrait à l'évaluation en termes d'avoir une raison ou pas, mais qui est essentiel pour que, par rapport à tel champ déterminé, tel type de question déterminée, on puisse raisonner en termes de différence entre ce qui a une raison, ce qui a un fondement et ce qui n'en a pas. Alors que la sûreté, ça, c'est quelque chose d'ordre subjectif. C'est une forme, c'est un état, au fond. C'est un état d'esprit. Et Wittgenstein, il y a un relent, malgré tout, du type d'horizon philosophique d'où il vient dans ce texte. Il y a encore Frege à l'arrière-plan, puisque Wittgenstein insiste à plusieurs reprises sur le fait qu'au fond, être sûr ou ne pas être sûr, au sens de la Sicherheit, au sens de la sûreté subjective, en un certain sens, ça n'a pas de portée épistémologique. C'est quelque chose, c'est une affaire privée. C'est un état, on éprouve ça ou pas. Et il insiste sur le fait que ce qu'il entend par certitude, ça n'est pas exactement de cet ordre-là. Alors c'est très intéressant parce que la certitude à la fois, elle ne s'identifie pas strictement à la notion de savoir, mais en même temps, elle n'est pas non plus de l'ordre de la sûreté ou inversement de l'absence de sûreté. Elle n'est pas de l'ordre de ce sentiment qui serait celui du risque ou du non-risque. C'est quelque chose d'intermédiaire. C'est comme une sorte de notion qui serait à la frontière du subjectif et de l'objectif, puisqu'à la fois elle communique avec celle de savoir, puisqu'elle est ce qui le rend possible, ce qui ouvre l'espace dans lequel c'est un sens de parler de savoir ou pas, et en même temps elle ne se réduit pas non plus à la simple affirmation d'un état mental, du fait que je me sentirai dans tel état ou pas.
Qu'est-ce que cela veut dire que la vérité d'une proposition soit certaine ? Par le mot « certain », nous exprimons la conviction totale, l'absence du moindre doute, et nous cherchons par là à convaincre autrui. C'est là la certitude subjective. Mais quand y a-t-il de l'objectivement certain ? Quand une erreur n'est pas possible. Mais quel genre de possibilité est-ce là ? Ne faut-il pas que l'erreur soit logiquement exclue ? Si je crois être assis dans ma chambre et que cela ne soit pas, on ne dira pas que j'ai fait une erreur. Mais quelle est la différence de nature entre une erreur et ce cas ? Une preuve sûre est celle que nous admettons comme absolument sûre, celle d'après laquelle nous agissons avec assurance, sans le moindre doute. Ce que nous appelons « erreur » joue un rôle bien déterminé dans nos jeux de langage. En joue un aussi ce que nous considérons comme preuve apportant un témoignage sûr. L'emploi de vrai ou faux a ceci de fallacieux que tout se passe comme si on disait « cela s'accorde avec les faits ou non », alors que ce qui est en question précisément, c'est cet accord.
Lorsque Wittgenstein, dans les propositions qu'on vient d'entendre, qui ont été lues par Jean-Louis Jacopin, les propositions 193 à 199 du traité de la certitude, lorsqu'il écrit que ce que nous appelons erreur joue un rôle bien déterminé dans nos jeux de langage, on joue un aussi ce que nous considérons comme preuve apportant un témoignage sûr. Ce vocabulaire de la preuve, de l'erreur, du témoignage vient s'ajouter à celui-même des indices. On a l'impression que c'est comme un roman policier, qu'il s'agit de déceler tout ce qui, parmi les éléments qui sont à notre disposition, que ce soit les choses ou les faits, on a fait la distinction dans l'émission sur le Tractatus mardi dernier, que nous devons déceler la nature de chaque chose qui est à notre disposition, qu'elle soit théorique, vécue, empirique, subjective, objective, pour ensuite permettre de clarifier le rapport que nous pouvons entretenir avec le monde en tant que tel. Et ces indices-là, cette quête d'indices et cette quête de moyens pour arriver à clarifier nos moyens de connaissance en eux-mêmes se retrouvent dans ces distinctions que vous faites entre la certitude, le savoir et la connaissance. Parce qu'on appartient, on est là dans des ordres qui sont différents chez Wittgenstein. Ce n'est pas, la certitude n'est pas le sommet de la connaissance. On n'a pas d'abord la connaissance, puis au sommet de cela, la certitude. Non, c'est des ordres différents. Et donc, si bien qu'il est difficile de penser ensemble tous ces éléments-là. On a l'impression que c'est un peu disparate, qu'il fait le constat de différents domaines, qu'il n'arrive pas, parce qu'il montre que c'est impossible de les englober au sein d'un tout, au sein d'un système. Et du coup, il ressort de ce texte-là, de la certitude, une impression à la fois précise et en même temps qui met mal à l'aise, parce qu'on ne sait pas trop comment s'orienter, que faire de ce scepticisme au fond. Une fois qu'on a mis les termes qu'il fallait, qu'on emploie les bons termes pour le nommer, que fait-on ?
Alors, c'est certain que ce n'est pas une différence de degré. Hein. La certitude n'est ni un degré inférieur, ni un degré supérieur de savoir. C'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre du savoir pour lui, bien que dans le langage courant, ça soit parfois recouvert par la formule « je sais ». Mais dans ce cas-là, il faut demander, il faut examiner de plus près. Et puis, on se rend compte que très rapidement, si on nous demande « mais comment tu sais ça ?», ben finalement, on ne sait plus trop quoi dire. On va dire ben, « je l'ai lu, c'est dans les livres d'histoire ». Puis on va nous dire « mais pourquoi est-ce que le fait que ce soit un livre d'histoire indiquerait que ça soit vrai ?» Puis là, on va chercher des raisons, on va dire « mais les gens qui font ça sont très sérieux, tout ça est vérifié, c'est bien connu. » Puis on se rend compte qu'on tourne en rond et qu'au fond, ça fait partie du bagage fondamental qui est le nôtre par rapport à un certain type de questions. Et on se rend compte qu'au fond, bah, le verbe « je sais » est équivoque, puisque parfois, il renvoie à un certain type de procédure dans lequel ça aurait un sens d'exiger un certain type de vérification, et puis d'autres fois non. Et ça peut être par rapport aux mêmes objets, puisqu'il est bien évident que, par exemple, ce qui, pour l'historien, sera éminemment à vérifier et sera l'objet d'une connaissance au sens tout à fait strict du terme, pour l'homme de la rue, qui a juste besoin d'un certain arrière-plan pour, lisant son journal, être convaincu que ce dont on parle, bah, ça renvoie à des choses qui, effectivement, ont un certain passé, qu'il connaît grosso modo, bah, là, ce passé-là, il fonctionne non pas comme objet de savoir en ce sens fort et défini, mais il fonctionne plutôt comme quelque chose qu'on tient de toute façon pour acquis. Et on voit que sous des termes analogues, ça peut être des choses très différentes qui se recouvrent. Alors par rapport à ça, Wittgenstein nous propose, comme toujours dans sa démarche philosophique, plutôt une méthode, une façon d'approcher concrètement l'usage des termes dans certaines situations. Nous rendre compte, par exemple, que l'expression « je sais », ça ne fonctionne pas toujours de la même façon. Ça peut être quelque chose qui connaît des usages différenciés. Il ne nous propose pas de théorie générale là-dessus. Et alors, quant au fait de savoir si ce qu'il nous propose, c'est un scepticisme, je ne crois pas. Je ne crois pas non plus que ça soit une réfutation du scepticisme. C'est ça qui fait l'originalité de sa démarche. De la certitude, c'est un livre, une esquisse, une ébauche, où il revient à la fin de sa vie sur quelque chose que, au fond, il a assez maltraité dans sa trajectoire philosophique, à savoir ce qu'on appelle, au moins dans le monde anglophone aujourd'hui, l'épistémologie, au sens anglais de ce terme, c'est-à-dire la théorie de la connaissance, hein, pas la philosophie des sciences, mais la théorie de la connaissance. Et Wittgenstein, au fond, n'a jamais été très enthousiaste de cette partie de la philosophie. Dans le Tractatus, il a des formules très définitives là-dessus, en nous disant qu'au fond, bon, ça ne fait pas partie du champ des questions philosophiques. Et dans De la certitude, il revient là-dessus, sur un mode plus bienveillant, mais aussi, finalement, avec une façon de désactiver les problèmes, de les déplacer, puisqu'il nous dit, si vous voulez poser des questions et entrer à la connaissance, ben, rendez-vous compte que dans ce genre de questions interviennent des dimensions qui ne relèvent pas de la connaissance. Et c'est important de faire une place à ces dimensions-là dans cette interrogation. Donc, au fond, il nous apprend à être attentif à certaines différences. C'est pas, son but n'est pas du tout de remettre en question la connaissance, de la déstabiliser. Son but est plutôt de nous aider à faire des partages, des différences dans la façon que nous avons d'utiliser des termes que nous pourrions croire être épistémologiques, pourrions croire avoir une charge en termes de connaissances. Et puis, en réalité, bah, si on regarde de plus près, dans certains cas, c'est vrai, et il est important que ça le soit. Dans d'autres cas, non. Et il est important d'être capable de faire ce genre de différence-là.
Est-ce qu'on ne pourrait pas voir dans la façon qu'a Wittgenstein, non pas de réfuter le scepticisme, puisque tout l'enjeu du livre est de montrer que le scepticisme est irréfutable, mais qu'il est dépourvu de sens, que la façon qu'il a donc de montrer l'absurdité même du constat que fait le scepticisme, est de montrer que le scepticisme doit être accepté en tant que tel, ce qui impliquerait une forme de sagesse du scepticisme. Alors peut-être dans une perspective plus cavellienne, là je fais référence donc à Stanley Cavell, le philosophe américain Stanley Cavell, qui a beaucoup lu et travaillé sur Wittgenstein et qui en propose sa propre interprétation. Et peut-être cette façon-là que nous pouvons avoir d'accepter ce scepticisme serait dans une forme de confiance. Et Wittgenstein emploie le mot, je le cite à dessein, à la proposition 150, il dit « Comment est-ce que quelqu'un juge quelle est sa main droite et quelle est sa main gauche? Comment est-ce que je sais que mon jugement s'accordera avec celui d'un autre? Comment est-ce que je sais que cette couleur est bleue? Si dans ces cas, je ne me fais pas confiance, pourquoi devrais-je faire confiance au jugement d'autrui? Y a-t-il même un pourquoi? Ne dois-je pas commencer quelque part à faire confiance? C'est-à-dire quelque part, je dois commencer à ne pas douter. Et cela n'est pas, pour ainsi dire, précipité, mais excusable. Cela fait partie de l'acte de juger. Cette dimension-là de confiance... Et comme une, enfin, on peut lire comme une forme de promesse, en tout cas d'acceptation du scepticisme, peut-être même de paix avec cela. Donc non pas une déclaration de guerre contre le scepticisme, mais une forme de sagesse, encore une fois. Oui, acceptons que nous ne pouvons pas savoir que le scepticisme est inhérent à notre vie et faisons-nous confiance.
Alors, cette expression me gêne un petit peu, mais je pense que ce qui est important, c'est plutôt qu'acceptation du scepticisme, c'est plutôt le sentiment que le type de réponse que la philosophie traditionnelle, en tant qu'épistémologie, en tant que théorie de la connaissance, peut donner au scepticisme, n'en est jamais une. Et en réalité, la réfutation du scepticisme, en ce sens recherché par la philosophie moderne, au fond depuis Descartes, est impossible. Ça, c'est vrai qu'au fond, c'est un point très important pour lui. Mais après, si la réfutation du scepticisme est impossible... C'est peut-être aussi parce qu'un certain type de scepticisme théoriciste se représentant lui-même comme négation de la connaissance, lui-même, en un certain sens, n'est peut-être pas possible. Or, il n'est pas possible, non pas en un sens qui serait forcément très rassurant, au sens où ça veut dire qu'on aurait conjuré définitivement ce spectre, mais au sens où il faudrait plutôt s'interroger sur quelle est sa véritable signification, qu'est-ce qu'il y a derrière lui. Alors, si derrière lui, il y a quelque chose qui se recouvre... qui à la surface est recouvert par une thèse sur la possibilité de la connaissance, mais qui en réalité recouvre autre chose, à savoir par exemple la prise de conscience du fait que, pour dire les choses simplement, à chaque fois c'est moi qui ai à parler. J'ai à parler avec les mots de la tribu, mais c'est moi qui ai à parler. Ce qui veut dire qu'au fond, implicitement, il y a toujours déjà l'acceptation d'un certain nombre de règles du jeu, une façon de se situer en elle, et là peut-être peut s'ouvrir une sorte de sentiment de vertige. Par rapport à ça, puisque ça, c'est toujours déjà joué, mais c'est pas parce que c'est toujours déjà joué que je ne peux pas m'installer moi-même dans une sorte de distance par rapport à cela, puisqu'après tout, je ne me réduis pas à un simple exécutant, je peux aussi être en porte-à-faux, finalement, par rapport aux règles, je peux aussi éprouver l'angoisse d'être celui qui a à les activer, qui a à les mettre en œuvre. Oui, bien sûr, à ce niveau-là, le scepticisme, probablement une forme de vérité. Simplement, cette vérité n'est pas une vérité théorique, pas plus que la vérité théorique de ceux qui prétendent réfuter le scepticisme et qui ignorent peut-être que dans le scepticisme, il y a ce type d'angoisse-là, ce type d'inquiétude-là. De ce point de vue, la lecture de Cavell, probablement, évidemment, demeure très puissante. Même si, en un sens, le terrain de la certitude, de ce point de vue-là, est peut-être moins propice que celui des recherches pour ce genre de discussion, parce que, paradoxalement, c'est le texte où Wittgenstein va le plus loin sur le terrain épistémologique. C'est celui où il est en discussion le plus minutieuse avec la tradition épistémologique. Alors même si c'est pour montrer que ce point de vue-là est insuffisant, il accepte de s'installer sur ce terrain-là.
Il y a des jours inévitables où la confiance s'évanouit. Toutes ces heures vulnérables, il y a des jours comme des nuits. Les instants où je m'arrête au beau milieu de ma route, comme un lendemain de fête, c'est juste un jour de doute. Les jours où même le temps dehors n'est pas sûr de lui, où le ciel est trempé sans une seule goutte de pluie. Je regarde autour de moi, fui par ma sérénité, victime d'un moment de flou ou d'un trop-plein de lucidité. J'ai trop d'attentes et trop de souvenirs qui font des têtes à queue. Il y a beaucoup trop de pourquoi et pas assez de parce que. Je choisis souvent le silence pour que les gens regardent ailleurs. Je suis stoïque en apparence, mais en tempête à l'intérieur. Il y a des envies qui me chuchotent et des regrets qui grondent. C'est les jours où tu te sens seul, même entouré de plein de monde. On connaît tous ces passages, un dernier vers pour la déroute. Les certitudes prises en otage, c'est juste un jour de doute.
Merci beaucoup Jocelyn Benoît d'avoir participé à cette émission, d'avoir terminé avec nous cette semaine consacrée à Wittgenstein. De vous, je rappelle que l'on peut lire les éléments de philosophie réaliste qu'on trouve aux éditions Vrin. Lisez et relisez Wittgenstein, chers auditeurs, j'espère que cette semaine vous aura donné envie de le faire. On trouve les traités de la certitude, les recherches philosophiques et le Tractatus. Tous ces ouvrages sont disponibles aux éditions Gallimard.
Dans tout ce que j'ai tenté, je ne revois que mes ratés.
Vous écoutez France Culture, vous êtes sur les nouveaux chemins de la connaissance et il est l'heure de retrouver le journal de la philosophie avec vous, François Noudalman, bonjour.
Bonjour Adèle. J'aime la vie et je la jouis au double des autres, disait Montaigne. Aujourd'hui, l'anthropologue Françoise Héritier, en femme et scientifique, nous rappelle tout ce qui peut faire la joie et la douceur de l'existence. C'est « Le sel de la vie » paru chez Odile Jacob. Françoise Héritier, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous recevoir. Cette lettre, parce que c'est une lettre, est surprenante après tant de textes savants. C'est une longue lettre sur la légèreté et la grâce d'exister, malgré tout, malgré les malheurs, malgré les maladies.
C'est vrai, c'est une. J'appelle ça une flânerie. Hein, une flânerie, une fantaisie. J'ai comme. Quelque chose, une idée qui m'a prise comme cela, en réaction à une carte, même pas une lettre, une carte postale, que j'ai reçue de quelqu'un dont je dis que je l'aime beaucoup. Je reconnais, c'est vrai, parce que c'est mon médecin depuis 30 ans, et c'est un très grand homme. Bon. Et il est toujours, il consacre sa vie à ses patients. Et il n'a pratiquement pas de temps, jamais de temps à lui-même. Et il m'écrivait qu'il avait volé 8 jours de vacances. Et ce volé 8 jours de vacances, ça a été un mot de trop, si vous voulez. Alors j'ai commencé à lui, je lui ai répondu sur un ton un peu moqueur d'abord, qu'il ne se rendait pas compte qu'il passait à côté de toutes sortes de plaisirs infimes, mais qui font la trame de nos jours. Puis je me suis prise au jeu de me demandait qu'est-ce qu'il faisait pour moi-même le sel de la vie, et c'est-à-dire qu'il a rendu goûteuse, voyez, avoir du goût au sens où on le dit en Bretagne, ce n'est pas au sens de la mode où on dit qu'on a du goût pour choisir ses vêtements, c'est avoir du goût à vivre, tout simplement. Et donc j'ai continué cette lettre, car c'est une lettre, mais sous forme poétique et une simple énumération avec des virgules. C'est une seule grande phrase,
oui, somme c'est toute. Ça, voilà, oui.
De faire l'énumération de ce qui, dans ma vie, aussi bien de façon très générale, c'est-à-dire qui peut être de l'expérience commune. Hein. Tout le monde a vécu ça, à un moment ou à un autre, peut s'y reconnaître. Et puis de temps en temps, des souvenirs très précis qui me sont propres, mais aussi qui peuvent être transposés dans l'existence des autres. Et puis un beau jour, je me suis arrêtée, parce que je me suis dit que si je continuais, je pourrais continuer jusqu'à 500 pages, et qu'il fallait quand même, que ce n'était quand même qu'une fantaisie, qu'il fallait que j'arrête.
Alors, il y a une sorte de frivolité heureuse, une jouissance d'ailleurs dans l'énumération de ces menus plaisirs, qui prend cette longue phrase, pas de point final effectivement, toujours la suspension. Un anthropologue, imaginons, plus tard, trouverait ce journal, comme ça, et il dirait quoi ? Une mine de renseignements sur les habitudes d'une femme française, d'une femme européenne, à votre avis ?
Non.
Non.
Je ne pense pas. Je pense qu'il ferait comme un tout, s'il était vraiment un anthropologue martien ou d'une autre planète, et qu'il agissait selon nos critères d'anthropologue, qu'il chercherait d'abord à retrouver à l'intérieur de ce. Ce n'est pas un fatras, c'est désordonné apparemment. Ça ne l'est
oui.
pas
comme Montaigne qui disait j'ai un ordre tout à part moi.
Hein. Oui, j'ai un ordre tout à part moi. Il chercherait des invariants. Mmh. Il chercherait comment il peut se reconnaître lui-même, et il se reconnaîtrait lui-même.
Est-ce qu'on peut avoir un peu accès à ces invariants ? Parce qu'il y a malgré tout des regroupements. À un moment donné, c'est le cinéma, le goût pour les séries. On apprend que vous aimez Dr House. Aussi des passages d'une grande sensualité, des moments aussi sur la culture et sur la nature, enfin sur des impressions très diverses.
Alors, il y a des enchaînements, si vous voulez. Mais il peut y avoir aussi bien des enchaînements, je dis de mémoire comme ça, des enchaînements purement qui tiennent à à l'écoute des mots. Je dois dire à un moment, sous-peser un melon, peser un argument, si vous voulez. Bon, l'enchaînement va avec le terme peser. Mais il y a aussi des enchaînements, comme vous le dites, thématiques. La plupart du temps, les enchaînements, j'en ai le secret, moi, à l'intérieur. C'est-à-dire, je sais pour quelle raison je suis passée de telle chose à telle chose, mais même si ça n'apparaît pas clairement dans le fil du discours. Marcher sur du sable chaud, mais pas trop. Siroter. Faire sauter un trousseau de clés. Faire pipi dans la nature. Être ému aux larmes. Hurler de joie devant un tir irrattrapable au football. Caresser, être caressé. Embrasser, être embrassé. Enlacer, être enlacé. Avec amour, complicité, tendresse. Se sentir plein d'allant, d'enthousiasme, de passion. Avoir des élans du cœur. Se moquer des convenances. Admirer la jeunesse. Avoir les yeux plus gros que le ventre. Avoir délicieusement peur. Se sentir mal. Et ouvrir les yeux sur des visages amis. Se délecter en secret d'une idée, ou d'un projet, ou d'un souvenir. Sortir sur le tarmac, à la saison des pluies, à la nuit, à Niamey, et sentir l'odeur chaude et épicée de la terre africaine.
Merci Françoise Héritier. Il y a une très grande douceur qui se dégage de cette phrase. Et quand on pense quand même malgré tout aux débats violents dans lesquels vous êtes prise, débats avec la question de la différence des sexes, avec aussi la langue de l'autorité, oui, de ceux qui savent, qui ont le logos dominant, on se dit que voilà, vous avez toujours conservé cette je sais pas comment dire, une sensibilité ou bien un autre registre que celui de la guerre théorique.
Mais parce que je pense qu'en fait notre moi profond, c'est bien sûr celui de nos, ce n'est pas vrai, non, notre moi, c'est bien sûr celui des engagements, celui des passions, celui parfois des certitudes ou des inquiétudes, etc., bien sûr. Mais notre moi profond, c'est celui qu'on s'est tissé au fil des jours et qui est fait de tout cela, de ces multiples sensations, perceptions, émotions auxquelles on a réagi plus ou moins fortement, et qui constitue une sorte d'humus, une espèce de terreau qu'on peut laisser se dessécher. Je connais des gens qui laissent la chose se dessécher, mais qu'on peut continuer d'entretenir, enfin, et d'humidifier, disons, pour garder la métaphore de l'humus ou du terreau. Et je crois que oui, si c'est cela que vous voulez dire, ce n'est pas que j'ai fait une séparation entre les deux types d'activités de ma vie, mais il y a toujours eu une place, y compris dans les activités intellectuelles, pour saisir la petite chose qui passe, l'incongruité, le joli geste, le mot de trop, enfin, etc. Ce genre de choses, je sais les voir. Ouais.
Ouais. Le monde existe à travers nos sens, dites-vous, avant d'exister de façon ordonnée dans nos pensées.
Oui.
Et puis, il y a quelque temps en temps...
Oui, ça c'est dans la conclusion, oui, dans les quelques pages du Sermineau.
Oui, voilà. Cette phrase aussi, qui semble comme une sorte de recommandation, n'avoir jamais honte d'être soi.
Oui.
Pourquoi ?
Bien, parce que j'ai connu cette honte enfantine que l'on a parfois, qui n'est pas... qui correspond d'ailleurs à des choses étonnantes, parce que on ne sait pas pourquoi la petite fille, par exemple, qui est harcelée par quelqu'un, par un importun qui veut absolument la palper, pourquoi elle a honte. Bon, moi, c'était une expérience enfantine que j'ai connue. Bon, eh bien, sans m'en souvenir maintenant, la honte a disparu, je m'en souviens, et c'est quelque chose qui me... Qui entretient un certain nombre de convictions, si vous voulez, mais je n'ai plus jamais eu honte.
Merci beaucoup, Françoise Héritier, pour ce sel de la vie qui nous donne véritablement, oui, le goût de la vie à travers vous. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Vous pouvez retrouver le journal de la philosophie sur le site de franceculture.fr.
Merci François, ainsi s'achèvent les nouveaux chemins, mais pas d'inquiétude, on se retrouve non pas demain d'ailleurs, mais lundi, car demain, comme tous les vendredis, ce sera Philippe Petit au micro des nouveaux chemins. Philippe Petit qui parlera du cas Soljenitsyne, dans le cadre de ses 24 heures en Russie, organisées par France Culture. Philippe Petit recevra Bertrand Lemagnon, le biographe de Soljenitsyne, Nilita Struve, éditeur et ami du philosophe, et Michel Parfenoff, éditeur et directeur de collection chez Actes Sud. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine où nous parlerons de philosophie et d'islam. Sohrawardi, Moula Sadra, Avicenne, ce sera le programme de lundi, mardi, mercredi. Et jeudi, je recevrai Mohamed Sidri Janja pour vous parler de l'islam entre tradition et modernité. Si vous voulez réécouter cette émission, c'est possible en vous rendant sur le site internet franceculture.fr à la page des Nouveaux Chemins. Vous y trouverez toutes les indications bibliographiques et musicales concernant l'émission du jour, et d'ailleurs toutes les émissions de la semaine. Vous pourrez les réécouter en ligne, mais également les télécharger, les podcaster afin de les écouter où vous voulez, quand vous voulez. Et à l'issue de cette semaine, plusieurs remerciements. Tout d'abord à Jean-Louis Jacopin, dont la voix a fait un excellent Wittgenstein toute cette semaine. Un merci également à Hugo Clémeau pour ses conseils cinématographiques, aux documentalistes Virginie Gresset et Antoine Vuillos, mais également à Tristan Grenassia, car sans ses encouragements, sa disponibilité et son travail, cette semaine n'aurait tout simplement jamais vu le jour. Vous écoutez France Culture, dans un instant, Culture Monde, Florian Delorme.